Ecclésia Magazine.
Ecclésia Magazine.
Maxime Dalle.
La Fondation des Monastères célèbre son 50e anniversaire cette année, l'occasion pour elle d'organiser une année de rencontres avec les communautés et les donateurs. Cet organisme de soutien, de conseil aux communautés religieuses souhaite se mettre à l'écoute des monastères et des abbayes pour mieux répondre à leurs attentes et préparer l'avenir. On va en parler aujourd'hui avec deux invités, la mère abbesse Benoît Morisson qui est avec nous. Bonjour mère.
Bonjour.
Également avec nous, le président de la Fondation, Don Guillaume Gédrézac. Bonjour mon père.
Bonjour.
Alors peut-être pour débuter cette émission, alors Don Guillaume Gédrézac, vous êtes président de cette Fondation des Monastères qui fête donc son 50e anniversaire, président depuis 6 ans de cette fondation qui était avant une association. Peut-être pouvez-vous nous présenter en quelques mots tout d'abord cette Fondation des Monastères.
Oui, la Fondation est née il y a 50 ans des besoins des communautés en fait, parce qu'il fallait accompagner la couverture sociale d'un certain nombre de communautés qui n'avaient pas les moyens de payer les cotisations. Et en fait, ce sont des moines qui ont commencé à s'organiser pour récolter des fonds, d'abord au niveau des abbayes elles-mêmes, donc une solidarité intermonastique. Puis progressivement, il y a des donateurs qui se sont joints pour aider ces communautés. Et en fait, la fondation, quelques années plus tard, est devenue l'association est devenue une fondation à ce moment-là.
Alors, il y a eu le lancement de ce jubilé, de ces 50 ans de cette fondation, qui s'est déroulé donc le 20 octobre, donc c'était il y a 2 jours, c'est ce week-end, à l'abbaye précisément de Sainte-Marie-de-Mont. Alors, j'imagine, mère Benoît Morisson, que vous y étiez, bien évidemment. Peut-être pouvez-vous nous faire un premier retour sur cette rencontre.
Eh bien, c'était donc une journée de rencontre, d'amitié entre les monastères du Sud-Ouest, suscité par l'événement effectivement des 50 ans de la fondation. Donc nous étions une dizaine de communautés représentées et tous les amis des monastères qui avaient pu se joindre à nous. Donc c'était une journée très ensoleillée par ces rencontres et les échanges.
Et quel était le premier objectif de cette rencontre? C'était tout simplement que les donateurs puissent se rencontrer, justement, puissent rencontrer également certains de ces moines, de ces moniales aussi, qu'ils soutiennent?
Bien sûr, nous avons des occasions de rencontre entre communautés et chaque communauté avec ses amis et les personnes qui soutiennent ou qui fréquentent nos monastères. Mais là, c'était aussi dans le cadre donc de la fondation et du soutien que la fondation apporte aux communautés. Donc, c'était manifester une amitié active et qui dure depuis 50 ans et qui est toujours appelée à relever des défis nouveaux. Et nous avons de partager un petit peu ces défis ensemble.
On va en parler justement de ces défis nouveaux, père Guillaume Gédrézac. Quelle est la situation des monastères et des abbayes aujourd'hui en 2018?
Elle est très contrastée en France, parce qu'en fait, vous avez d'une part des communautés vieillissantes et en difficulté et qui ferment. Il y en a un certain nombre en France, mais il y a aussi des communautés qui vont bien et qui recrutent. Et justement, si vous voulez, l'aide de la Fondation va dans les deux sens. C'est-à-dire on aide les communautés qui ont des difficultés pour régler un certain nombre de problèmes et parfois même, dans un cas extrême, pour la fermeture. Et puis d'autre part, on aide aussi les communautés qui ont des vocations, et donc qui ont du mal à payer les cotisations sociales, à payer ces cotisations.
Comment expliquer d'ailleurs ce contraste entre des communautés qui fonctionnent, qui suscitent un certain nombre de vocations, et celles qui vieillissent et qui se meurent?
Vous savez, il y a eu, après Vatican II, beaucoup de nouvelles fondations monastiques, un peu partout en France, même des fondations qui alliaient une vie active et une vie contemplative à la fois. Donc des nouveaux schémas, si vous voulez, des nouveaux modèles. Et au fond, ces communautés ont attiré beaucoup de jeunes, c'est vrai, et elles en attirent encore. Et de fait, si vous voulez, cette situation a fait que, le nombre de vocations étant à peu près stable quand même, d'autres communautés qui étaient plus traditionnelles ont eu moins de vocations. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a eu peut-être d'autres questions aussi qui ont joué.
Alors c'est vrai que quand on regarde les quelques chiffres que la Fondation justement met en avant, il y a 30 000 religieux aujourd'hui en France, dont 80% de femmes.
Oui. Oui, 80% de femmes. Parmi les monastères, par exemple, actuellement, on a 250 monastères de moniales à peu près en France et 40 monastères de moines. Donc on voit bien le contraste entre les deux. C'est vrai que la vie contemplative attire davantage jusqu'à maintenant, hein, davantage des femmes. Mais aujourd'hui, on sent bien aussi que cette vocation contemplative, elle s'allie parfois à une vocation active. Et donc, je dirais, les frontières sont peut-être beaucoup moins claires et beaucoup moins évidentes qu'elles ne l'étaient il y a 50 ans.
Mère Benoît Morisson, quel est le, justement, on parle de la vocation des monastères, des abbayes, de cette vocation aussi qui peut être contemplative et active. Quelle serait pour vous, pour présenter un petit peu à nos auditeurs, la vocation première, si je puis dire, d'un monastère ou d'une abbaye ?
La vocation d'un monastère, c'est déjà d'être un lieu de prière, vécu en communauté, puisque nous vivons selon la règle de Saint-Benoît. Et puis, un lieu d'hospitalité, d'accueil, où nous proposons à nos hôtes eh bien, de partager très librement hein, cette vie de prière, aussi une écoute, si quelquefois les personnes sont aussi heureuses de trouver, de déposer des questions, des souffrances, voilà, pouvoir écouter et se mettre ensemble à l'écoute de la parole de Dieu.
Parce que c'est vrai que le monastère ou l'abbaye, mon père, peut être aussi l'occasion pour beaucoup de gens qui travaillent, qui sont dans bien évidemment très actifs dans la société, eh bien de se retirer aussi, de partir en retraite.
Oui, je pense que le monastère, c'est vraiment le lieu où on fait face à son propre mystère, au mystère que chacun porte en soi. Et quelque part, si vous voulez, c'est un lieu privilégié en ce sens-là. C'est-à-dire que c'est une communauté de personnes, hommes ou femmes, qui vit un peu cette recherche constante de la rencontre de Dieu qui suppose aussi la connaissance de soi et qui, par là même, peut aider d'autres à faire ce même chemin.
Quels seraient les défis pour 2018 et les années qui suivent, mon père, justement, pour ces monastères et ces abbayes, ou du moins peut-être pour les donateurs, justement, éventuels, de la fondation des monastères ?
Alors, je dirais que la première chose qu'on a voulu faire par ce cinquantenaire, c'est de remercier les donateurs, parce que vraiment, c'est grâce à eux que la fondation existe et que les communautés peuvent continuer. Alors, les défis aujourd'hui, il y en a plusieurs. Il y a d'abord, je vous le disais, d'aider les communautés qui sont parfois en difficulté, parce qu'elles ont des patrimoines immobiliers importants qui sont disproportionnés par rapport aux communautés. Et on ne peut pas réduire le patrimoine immobilier comme ça, surtout quand il a une valeur historique. Et je crois que c'est important de pouvoir inscrire ce patrimoine dans les territoires. Ça reste une donnée essentielle. D'autre part, ce que je vous en parlais tout à l'heure aussi, il y a tous ces aspects de cotisation sociale, de retraite pour les
contingences matérielles voilà, basiques.
Très, très basiques, mais qui sont importantes pour les communautés. Parce que pour pouvoir accueillir, il faut en avoir les moyens. Et parfois aussi, les bâtiments ne sont pas aux normes ou ne sont pas adaptés pour ce genre d'accueil. Je pense par exemple aux hôtelleries monastiques ou aussi au parcours pour arriver à une église dans un monastère. Aussi toutes les normes qui concernent par exemple les handicapés. C'est important que les monastères soient accessibles. Et donc on a pas mal de travaux de ce point de vue-là. Et puis il y a aussi tout ce qui concerne un peu les communautés qui grandissent et qui ont besoin d'adapter les lieux qu'elles habitent hein, pour que ces lieux puissent continuer à accueillir et à faire grandir ces communautés.
Quelles sont ces communautés justement florissantes dont vous nous parlez?
Vous avez par exemple dans des communautés plus nouvelles comme les fraternités monastiques de Jérusalem à Paris que vous connaissez bien, je pense. Et puis il y a aussi d'autres communautés nouvelles qui se sont implantées, les sœurs de Bethléem ou les fraternités de Saint-Jean. Et puis vous avez d'autres, ou les fraternités de l'Agneau par exemple. Et puis vous avez d'autres communautés plus anciennes mais qui sont vraiment extrêmement vivantes. Vous avez l'abbaye de Laval, l'abbaye de Maubon et d'autres abbayes qui ont de nombreuses vocations encore en France.
Alors peut-être, Mère Benoît Morisson, pouvez-vous nous présenter justement cette abbaye Sainte-Marie de Maumont, où s'est donc déroulé il y a deux jours le lancement de ce jubilé pour la fondation des monastères. C'est donc une abbaye bénédictine qui regroupe combien de sœurs?
Nous sommes une communauté de 48 sœurs, dont les âges s'échelonnent entre 28 et 96 ans, avec une bonne tranche de sœurs aînées, mais toutes les générations sont présentes. Et ça, c'est la grâce aussi de cette vie communautaire. Et un défi, c'est de vivre cette intergénération dans la vie quotidienne. Nous avons aussi une fondation en Guinée-Conakry. Donc c'est contact aussi avec une autre église, une autre culture. Et ça, 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 c'est une vitalité aussi pour notre communauté, même si c'est aussi une exigence et un appel. Nous avons, nous gagnons notre vie aussi,
oui.
Avec un atelier de reliure. Et puis,
c'est vrai qu'il y a toute une tradition d'artisanat monastique, justement, ma sœur. Et
oui, tout à fait.
Vous, en l'occurrence, c'est donc la reliure.
La reliure.
Oui.
Un atelier qui a 60 ans d'existence, donc qui a tout un savoir-faire qui s'est transmis de génération en génération, justement, et qui nous met en contact avec des bibliothèques, des bibliophiles. Voilà, c'est un très beau travail et c'est vraiment notre gagne-pain essentiel.
En tant que maire abbesse, quelles sont vos prérogatives? C'est vous qui garantissez d'une certaine manière l'harmonie au sein de cette abbaye entre toutes les moniales qui y sont?
Eh bien, le rôle d'un abbé, d'une abbesse, c'est d'animer cette vie de communauté. Et de veiller à la fois à l'équilibre des personnes et de la communauté, un service de l'unité et de la croissance des personnes et de la croissance de la communauté. Donc, une écoute de toute la communauté pour discerner aussi les chemins, les choix du présent et les chemins de l'avenir, oui, ensemble.
Père Gédrézac, c'est vrai que ce qui constitue, je dirais, l'une des principales particularités, si je puis dire, de la vie monastique, c'est bien sûr cette vie en communauté, et c'est de garantir aussi aujourd'hui, et depuis des siècles et des siècles maintenant, eh bien, cette vie communautaire qui n'est pas forcément évidente.
Oui, alors il y a des communautés qui ont une vie communautaire très intense, oui. Et d'autres une vie communautaire beaucoup plus large. Ça dépend beaucoup des ordres et des traditions. Mais c'est vrai que la vie communautaire, c'est-à-dire le sens au fond de la relation entre les personnes, est quelque chose d'essentiel, parce que quelque part, c'est ce que disent d'ailleurs les derniers textes du Saint-Siège sur la vie contemplative, c'est la communauté, c'est une espèce d'image ou d'icône de la vie trinitaire, de la vie de Dieu, et que cet amour qui existe entre les frères et les sœurs, avec tous les problèmes que ça peut poser, c'est quelque chose qui est très important pour exprimer la profondeur et la vérité de la révélation chrétienne.
On a le sentiment aussi que les monastères et les abbayes, d'une certaine manière, forment un socle, une forme de fondation, finalement, qui pérenne de tout ce que l'Église, finalement, enseigne et vit depuis bientôt 2000 ans.
Oui, je crois que c'est un peu la vocation de la vie monastique. Hein. Ce n'est pas d'être aux premières loges, toujours, on est souvent très discret et très caché, mais le but, c'est vraiment de fonder la vie de l'Église dans ce qu'elle a de plus essentiel, c'est-à-dire à la fois la charité, le fait de constituer une véritable communauté, et puis le fait d'accueillir tous ceux qui ne peuvent pas... les pauvres, en tous les sens du terme. Et puis aussi, le fait de construire quelque chose qui va durer dans le temps et qui va transmettre de génération en génération une espèce d'émerveillement qui se répète sans cesse et qui est un enthousiasme qui est là pour faire grandir justement l'Église. C'est pour ça que ce qui est très intéressant, par exemple, toutes les communautés nouvelles qui sont nées après Vatican II, dans toutes les formes possibles et imaginables, beaucoup s'appuient sur le modèle monastique, même si après elles l'ont conjugué à leur manière. Mais c'est très intéressant de voir comment la vie monastique est devenue une espèce de critère depuis Vatican II.
C'est vrai qu'il y a d'une part effectivement ce patrimoine en tant que tel, les murs, c'est-à-dire les abbayes et les monastères qui parfois sont des héritages de plusieurs siècles, voire plus de 1000 ans peut-être pour certains, et aussi ce patrimoine bien sûr spirituel, cette manière de prier, la règle en l'occurrence là par exemple pour l'abbaye de Maumont de Saint-Benoît.
Oui, alors en fait si vous voulez, la communauté c'est un peu comme des murs, c'est-à-dire les murs en eux-mêmes, même s'il y a toujours un parfum qui demeure dans les murs quand une abbaye est vide, mais en fait si vous voulez, la communauté joue un rôle essentiel. Et chacun des frères ou chacune des sœurs vit une aventure personnelle extraordinaire qui nourrit un peu cette vitalité. Mais il faut reconnaître aussi en France qu'on a une situation un peu particulière puisque la Révolution française est passée par là et que beaucoup d'abbayes ont été expulsées et que c'est assez rare aujourd'hui qu'il y ait des communautés qui vivent dans des lieux qui sont très, très anciens historiquement.
Alors, Mère Benoît Morisson, peut-être nous dire aussi quelques mots sur, en l'occurrence, la règle de Saint-Benoît. C'est vrai que très souvent, bien souvent, même peut-être tout le temps. Les monastères et les abbayes sont réglés par une règle, par un saint illustre, en l'occurrence Saint-Benoît. Est-ce que, par exemple, vous, dans votre abbaye de Maumont, cette règle de Saint-Benoît, eh bien, vous la pratiquez depuis des siècles et des siècles, comme s'il y avait une transmission, finalement, de génération en génération, de cette même règle immuable? Ou est-ce que c'est une règle qui peut éventuellement évoluer au fil du temps?
Bien sûr, c'est une règle qui est toujours qui a besoin d'être actualisée par les personnes qui y vivent. Nous vivons sur une règle qui date du VIe siècle, mais qui n'a pas cessé de s'adapter dans des cultures différentes et des contextes très différents, mais qui continue de nous donner des grandes lignes de cette vie de communauté, de recherche de Dieu, ensemble.
Alors c'est vrai que vous évoquiez, ma sœur, justement, l'artisanat monastique, l'artisanat des abbayes. Père Gédrézac, cet artisanat, il est en forme aujourd'hui, sur le plan, je dirais même, économique. C'est vrai qu'on a reçu, par exemple, Combes, qui avait lancé la Divine Box, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui notamment promeut un certain nombre de produits monastiques, divers et variés, plutôt des produits culinaires. Et on se rend compte quand même qu'il perdure, effectivement, des recettes, finalement, que personne ne connaît, et qui sont toujours là, depuis des siècles et des siècles.
Oui,
aussi.
Oui, c'est vrai que l'artisanat monastique a des caractéristiques particulières. Il y a une espèce de... Bon, il y a d'abord des produits qui sont venus progressivement, qui se sont perfectionnés avec le temps et qui en fait ont gardé une qualité et puis un rapport aussi, je crois, avec la nature qui est tout à fait particulier. Parce que à la fois c'est une transformation, mais en même temps c'est dans une transformation dans une vision durable. Enfin, je sais pas comment on pourrait dire ça. C'est-à-dire que au fond, les produits sont la traduction d'un savoir, d'une expertise, mais en même temps d'un respect de la nature et d'une mise en valeur, si vous voulez, de produits qui ont marqué des territoires, surtout. En fait, c'est surtout ça.
Et quelles que soient les communautés, d'ailleurs religieuses, chacune de ces communautés lie la prière, justement, au travail, au labeur.
Oui, alors, vous citiez les bénédictins, mais il y a aussi les clarisses, les carmélites. Hein, donc, il y a beaucoup les visitandines, il y a beaucoup d'autres ordres qui ont un peu une forme de vie assez semblable, avec des règles différentes, mais au fond, c'est toujours un peu la même forme de vie. Et, si vous voulez, l'idée, c'est qu'en fait, on allie à la fois le travail et la prière, dans le sens où le travail est une forme aussi de construction de la personne. La prière l'est aussi. C'est vraiment, si vous voulez, toute la vie monastique, c'est au fond une pédagogie pour aider des personnes à devenir elles-mêmes. Alors, il y a diverses modalités qui dans la vie courante, mais au fond, tout cela est conjugué pour aider des êtres, des hommes et des femmes, à devenir vraiment eux-mêmes.
Mère Benoît Morisson, est-ce que c'est important pour les auditeurs, par exemple, qui nous écoutent, même les donateurs, à la fois d'aider la Fondation, on va en parler après plus précisément de ce jubilé, mais aussi de tout simplement venir vous visiter, venir prier, venir faire une retraite pour aussi faire vivre tout simplement ces monastères et ces abbayes?
Bien sûr, on ne peut qu'encourager les personnes qui le souhaitent à visiter, à rencontrer, à venir... passer un temps dans un monastère, parce que je pense que c'est effectivement des lieux de paix, des oasis ou des clairières, disons, qui permettent dans une vie quand même assez remplie, agitée, pouvoir se déconnecter un peu pour se reconnecter à notre vie intérieure et pouvoir aussi creuser ces espaces de communion avec soi-même, avec l'autre et avec ces questions les plus profondes, sa recherche de Dieu ou sa recherche de sens, tout simplement.
Père Gédrézac, vous avez le sentiment aujourd'hui que les chrétiens fréquentent suffisamment, si je peux dire, les monastères et les abbayes?
Oui, je crois que de plus en plus, d'ailleurs. En fait, les abbayes deviennent des lieux très importants pour beaucoup de chrétiens parce que, quelque part, ils cherchent à la fois, je crois, trois dimensions essentielles du christianisme, hein, c'est-à-dire à la fois la dimension de la connaissance. À travers la liturgie, on apprend, il y a une espèce de transmission d'un savoir beaucoup plus profond, hein, qui est de l'ordre de l'expérience intérieure. Il y a le fait de pouvoir aussi vivre concrètement, hein, une espèce de fraternité, si vous voulez, pour quelques jours. C'est toujours très important, hein, de vivre ça. Et puis, c'est très concret, la vie monastique. Hein. On peut imaginer parfois les moines un peu en l'air, là, comme ça.
Oui.
Mais en fait, ils se désirent très concrets, très réalistes, très, très bien implantés, souvent dans leur territoire. Mmh. Et c'est quelque chose d'important pour ça, je crois.
Et puis, c'est vrai que là aussi, on sent un désir, d'ailleurs, chez beaucoup, d'aller justement faire une retraite de quelques jours, parfois une semaine ou parfois même plus, dans ces lieux qui, d'une certaine manière, sont un petit peu l'envers de notre société actuelle, où il y a beaucoup de bruit, où il y a beaucoup d'activités, d'activités même cérébrales. On est toujours en fait sollicité, on n'a même pas le temps de se, ou peu en tout cas, de se reposer et puis de goûter aussi au silence.
Oui, mais je pense que si vous voulez, ce qu'enseigne la vie monastique, c'est que le bruit est d'abord intérieur. Si vous voulez, il y a du bruit extérieur, c'est vrai, hein, partout. Mais en fait, quand on se trouve dans le silence, au bout de quelques temps, on se rend compte qu'en fait, la vraie question, c'est ce que nous vivons au plus profond de nous-mêmes. Et en fait, quand on a détecté cela, à ce moment-là, il devient possible, si vous voulez, d'entrer dans ce que Mère Benoît disait, donc dans cette recherche d'une quête, d'une paix intérieure, qui est quelque chose de beaucoup plus profond.
Alors, mon père, pendant un an, vous allez donc organiser toute une tournée, une tournée régionale, 4 rencontres qui vont être organisées au-devant justement des communautés et de ses donateurs. Le but, ça va être aussi de présenter, je suppose, les actions concrètes de la Fondation.
Oui, donc il y a toujours 2 étapes, si vous voulez. La première, c'est de rencontrer les communautés pour les informer un petit peu de ce que nous faisons et surtout les questionner sur les problématiques nouvelles qu'elles rencontrent. Parce qu'en fait, si vous voulez, la Fondation, c'est un service, hein, qui répond à des besoins très concrets, alors qu'ils peuvent être très variés, hein, dans les communautés, et on a besoin d'écouter ce que nous disent les communautés. Donc ça, c'est le premier aspect. Second aspect, c'est de rencontrer les donateurs pour célébrer un petit peu ces 50 ans. C'est important de faire la fête, aussi avec les moines et moniales. Et vraiment, ils nous ont aidés tellement pendant toutes ces années, et puis que les communautés sont très reconnaissantes à leur égard. Et si vous voulez, c'est important de pouvoir le leur dire, simplement.
Oui.
Et un troisième aspect, alors, qui est d'étudier un certain nombre de questions qui, aujourd'hui, nous semblent importantes pour la vie monastique, pour l'avenir. Je pense, bon, à un moment, par exemple, on a eu toute une thématique autour de l'accueil, des diverses modalités de l'accueil, avec toutes les questions que ça peut poser. Et donc Mère Benoît, je ne sais pas si c'est elle, vous allez lui demander, mais vraiment, à un moment, elles ont refait toute leur hôtellerie. Et vraiment, elles ont pensé d'une manière extraordinaire, si vous voulez, cet accueil, en essayant de trouver l'équilibre entre la vie communautaire, donc protéger la communauté, et en même temps être capable d'accueillir vraiment avec... si vous voulez, avec une grande qualité, les personnes qui viennent. Et il y a cette réflexion, elle se déploie dans de multiples manières.
Alors peut-être, Père Benoît, justement, le Père Gédrézac vous lance cette question pour nos auditeurs, sur cette hospitalité, sur cet enjeu aussi très important de l'accueil d'hospitalité.
Ah oui, c'est sûr, ça fait partie dans la tradition bénédictine, partie intégrante de notre vie. Et bien, comme l'a dit Don Guillaume, c'est vrai que je pense que chaque communauté a aussi sa pratique de l'accueil et une histoire de l'hospitalité propre au usage de sa communauté et aussi dans une insertion locale, ecclésiale, sociale. Hein. Et pour nous, il y a vraiment nécessité de modifier et de faire des travaux, de mise aux normes, mais dès l'occasion de nous questionner aussi sur ce que nous vivions déjà, est-ce que nous voulions vivre davantage encore avec les hôtes et surtout ce que nos hôtes désirent, viennent chercher. Donc nous avons vraiment, c'est sûr, essayé d'écouter en profondeur les attentes et les désirs des personnes et des pèlerins, des hôtes.
Donc Guillaume, alors finalement ce jubilé, c'est aussi l'occasion effectivement de faire une espèce d'audit en fait sur la situation des monastères et des abbayes et puis aussi d'informer.
Oui, exactement. C'est-à-dire c'est une manière de regarder un petit peu la situation concrète aujourd'hui, mais d'aller un tout petit peu plus loin si vous voulez faire mémoire des choses qu'on a faites ou bien regarder la situation actuelle. C'est important de le faire, mais il faut aussi avoir cette espèce de regard si vous voulez un petit peu vers l'avenir. Et pour nous, la prospective est très importante parce que si voulez, les services de la Fondation, pour se développer, ils ont besoin de temps, parce qu'on a besoin de trouver les compétences. On ne les trouve pas forcément à l'intérieur de la Fondation. Et donc, on a tout un réseau d'amis et de bénévoles qui travaillent avec nous et qui nous aident justement à répondre à toutes ces demandes nouvelles. Mmh. Et pour nous, c'est vraiment important d'essayer de comprendre le sens que prend la vie des communautés, mais aussi enserré dans la vie de l'Église. Parce que forcément, si vous voulez, dans des diocèses où aujourd'hui il y a moins de prêtres, les situations des communautés vont être impactées par cette réalité.
Bien sûr. Mmh.
Et c'était inévitable que, si vous voulez, le service rendu par les communautés va se modifier, même si les communautés demeurent profondément dans leur propre vocation.
Et puis on peut d'ores et déjà vous aider, vous soutenir, hein, soutenir cette belle fondation des monastères. Sur ce site, je donne l'adresse, www.fondationdesmonastères, tout accroché, des monastères bien sûr avec un s.org, www.fondationdesmonastères.org. Merci beaucoup Don Guillaume d'être venu ici avec Mère Benoît nous présenter un petit peu ce jubilé de cette fondation des monastères qui va donc se dérouler durant toute cette année. Merci à vous.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir.